Carnet de région.
Gard,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croussillon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau carnet de région, un concentré d'informations languedociennes proposé par plusieurs radios associatives non commerciales en Languedoc-Roussillon. Et pour toute la durée du mois de mars, c'est Radio FM+ qui en assure la rédaction. Aujourd'hui, nous commencerons ce carnet de région en compagnie de Radio Escapade afin de parler emploi avec la mission locale Garrigue et Cévennes qui organise un forum sur ce thème le mercredi 26 mars prochain à Ganges. Nous nous glisserons ensuite dans le monde de l'archéologie grâce à deux reportages. D'abord, RCF Maglone Hérault nous guidera jusqu'à l'exposition temporaire inédite proposée en ce moment par le site archéologique Latara Musée Henri Prade. Sur place, nous irons à la découverte d'un peuple antique, peu connu, les Yapodes. Puis peut-être que ce sujet aura suscité des vocations parmi vous. Eh bien, toujours dans l'Hérault, mais grâce au musée de l'Odève, vous pourrez plonger pleinement dans le monde de l'archéologie grâce à l'opération « Tous archéologues ». En effet, durant tout ce week-end, plusieurs activités seront proposées gratuitement. Radio L'Odève nous emmènera avec elle pour en savoir plus. De son côté, Radio Aviva s'est rendue à Béziers pour assister à la rencontre créative entre des lycéens et un auteur dramaturge. Enfin, à Montpellier, le théâtre de la Chocolaterie continue d'enchanter le public avec ses créations maison. La dernière née de la troupe est « Il déménage ». Radio FM+ est donc allée à la rencontre de son auteur, Céline Cara. Pour la troisième année consécutive, la mission locale Garrigue et Cévennes organise un forum pour l'emploi à Ganges et ce sera le mercredi 26 mars de 13h à 17h. Hormis cet événement ponctuel, la mission locale œuvre tout au long de l'année pour accompagner les jeunes dans leur recherche d'emploi sur un territoire très vaste et très rural. La demande est forte puisque l'an dernier, c'est plus de 2500 jeunes qui sont passés dans une des trois antennes de la mission locale. Madame Leska est la directrice de cette mission locale. Elle nous explique les spécificités de son territoire et nous donne quelques précisions sur le prochain forum au micro de Rémi Goujon pour Radio Escapade.
Quel que soit le statut des jeunes gens, nous les recevons pour travailler le projet professionnel, l'accès à l'emploi, le logement, enfin, toute problématique qu'un jeune entre 16 et 25 ans pourrait avoir. Alors on a des actions que l'on mène en interne. Et puis ensuite, on peut orienter vers différents partenaires du secteur. Donc nous avons une antenne sur Ganges. Donc nous faisons sur Ganges le forum de l'emploi le 26 mars. Donc ça fait partie d'une des actions que nous menons à l'année. Puis nous avons aussi une antenne sur Saint-Mathieu-de-Tréviers, une antenne sur le Vigan. Donc on a un très très large territoire. Et nous faisons 7 permanences, pratiquement hebdomadaires, 7 permanences de proximité. Donc ça couvre un territoire sur 5 communautés de communes et puis environ 90 000 habitants et 4 000 jeunes, je pense, de 16 à 25 ans. Alors, bien sûr, nous couvrons tout le bassin d'emploi Ganges-le-Vigan et le nord de Montpellier, qui correspond à la communauté de communes du Grand Pic-Saint-Loup. Effectivement, Pôle emploi est un de nos principaux partenaires. Nous en avons d'autres. Nous travaillons avec tout le tissu socio-éducatif et puis économique du territoire, puisque la finalité quand même des réponses que nous pouvons apporter aux jeunes gens, c'est l'emploi. Voilà, donc sans tout le tissu économique, on ne pourrait pas évidemment apporter les réponses adéquates. Le forum de l'emploi donc, que nous organisons le 26 mars, c'est sa troisième édition sur Ganges. Nous avons décidé cette année de ne faire véritablement sur ce forum que de la proposition de recrutement, d'emploi. L'année dernière, on avait aussi fait un forum alors emploi et information métier. Cette année 2014, nous avons décidé de le dissocier, puisque nous travaillons en partenariat avec la communauté de communes des Cévennes gangeoises et suménoises sur ce forum. Donc le forum du 26 mars sera vraiment un forum destiné uniquement aux offres d'emploi à pourvoir. Et nous ferons un forum métier, je pense, courant novembre, où alors là, on pourra trouver de l'information sur différents secteurs d'activité et formation. Donc le 26 mars, ce sont réellement des employeurs qui ont des offres d'emploi à pourvoir qui seront là. Actuellement, nous avons une quinzaine d'employeurs qui ont répondu présents et qui feront donc des recrutements sur place. Donc il y a des offres en alternance, il y a des offres en CDD, en contrat à durée déterminée, en contrat à durée indéterminée, dans des secteurs d'activité qui sont variés. Il y a des offres en agriculture, il y a des offres dans le service de la propreté, dans l'animation, animation jeunesse, les services de l'armée et de la marine aussi seront présents, ils auront des choses à proposer. Donc on attend encore un certain nombre de réponses. Je pense que nous aurons une vingtaine d'employeurs sur place, avec Pôle emploi, donc comme je disais tout à l'heure, qui animera un atelier, et la mission locale qui fera le lien avec les jeunes présents et puis les partenaires et employeurs recruteurs.
Le site archéologique Latara Musée Henri Prade à Latte propose chaque année une exposition temporaire inédite d'archéologie. Après deux expositions labellisées d'intérêt national par le ministère de la Culture et de la Communication, le musée invite le public à découvrir un peuple antique du premier millénaire de notre ère, les Iapodes. Les collections du musée archéologique de Zagreb sont donc à apercevoir jusqu'au 8 septembre prochain. Pour RCF Maglon Hérault, Cédric Combé a rencontré le conservateur du musée de Zagreb, Ivan Rademan. Il nous parle de ce peuple méconnu.
Le territoire des Iapodes recouvrait à l'époque aussi une partie de la Bosnie occidentale et un petit bout de la Slovénie orientale. Mais le gros, enfin la partie centrale de leur territoire, se trouve dans l'actuelle Croatie centrale, dans la région montagneuse qui sépare la Croatie septentrionale de la côte.
Donc dans cette exposition, qu'est-ce qu'on peut découvrir ? On peut découvrir donc, c'est ça, des ornements, des colliers. On voit ici à côté de nous là, des poteries, c'est ça, essentiellement ?
Alors en fait, mes collègues donc préhistoriens, donc Lydia qui est l'auteur de l'exposition, on a discuté de cette exposition avec les collègues français, donc avec Monsieur Pernet. On cherchait à faire une exposition qui présente le caractère, je dirais presque insolite, ou du moins très spécifique de cette culture, qui est très spécifique aussi bien au niveau régional, donc au niveau des Balkans, qu'au niveau européen. Et ce qui est vraiment, je dirais même hallucinant, mais en tout cas vraiment impressionnant, qu'un tout petit territoire, peuplé à l'époque par une tribu, une population qui ne devait pas être très nombreuse, et puis avoir une culture matérielle aussi riche et aussi spécifique, sans véritables analogies, aussi bien dans le voisinage immédiat qu'ailleurs en Europe. Et on voulait justement présenter ces spécificités des Iapodes qui se différencient aussi bien de leurs voisins que d'autres populations proto-historiques en Europe.
Ce que vous êtes en train de dire, c'est que la civilisation était évoluée par rapport à d'autres ?
Tout à fait. Ils avaient certainement subi des influences de leurs voisins, mais on peut les suivre archéologiquement sur une période de plus d'un millénaire. Et tout en observant ces influences qui venaient de tous les côtés du nord de la Méditerranée, mais pendant toute cette période, ils ont réussi à conserver leur culture spécifique. Et c'est aussi une des raisons pourquoi ils sont extrêmement intéressants pour les archéologues, parce qu'on continue à se poser des questions, enfin les pourquoi et comment ils en sont venus là. Ce n'est pas le cas avec d'autres populations enfin voisines dans la région. Et donc ça, il reste un puzzle pour les archéologues. Et il est certain que mes collègues préhistoriens vont continuer à travailler sur la question dans les années et les décennies à venir.
Qu'est-ce qu'on connaît de cette civilisation au juste là ? On sait comment ils vivaient, on sait comment ils s'organisaient, mangeaient.
Ça, on le sait. Donc c'est une population de montagnards, d'éleveurs de bétail, notamment des chèvres et des moutons, de rudes montagnards qui survivaient tant bien que mal. On sait grâce aux sources anciennes, grâce aux auteurs romains et grecs, qui se lançaient souvent en Italie du Nord pour y piller un peu les riches en Italie. C'est aussi une des raisons pourquoi les Romains y envoyaient régulièrement des expéditions punitives. Leur mode de vie est aussi connu grâce à l'archéologie. Donc c'est une population qui... On peut répondre à beaucoup de questions les concernant, mais il reste beaucoup de zones floues, de zones d'ombre, des choses auxquelles on ne peut donner que des réponses très vagues. Leur mode de vie, généralement, on le connaît. Par contre, la manière dont leur société est organisée, il y a beaucoup de questions sur le rôle des femmes, le rôle des hommes. L'entité politique, si on avait une, il n'y en avait probablement pas, mais alors leur système d'alliance, comment leurs oppidas fonctionnaient entre eux. On sait qu'ils faisaient front commun généralement quand ils étaient agressés par les Romains, mais quand il n'y avait pas de Romains ou de menaces externes, comment ça marchait entre eux. Parce que la culture matérielle est très uniforme, mais il est certain qu'il n'y avait pas d'entité politique commune. Et pour le mode de vie, on se pose des questions, notamment à cause des sépultures et des rites funéraires. Il semblerait que le rôle des femmes y ait été beaucoup plus important que chez leurs voisins. Les femmes avaient un statut beaucoup plus élevé, ce qui est intéressant pour l'époque, parce qu'on n'arrive pas à distinguer dans les rites funéraires de classe guerrière, comme chez leurs voisins. Et pourtant, on sait, grâce aux auteurs romains et grecs, c'est un peuple belliqueux, un peuple de guerriers, mais ça ne se voit pas en archéologie. Donc on a la chance de pouvoir combiner les sources écrites et la situation sur le terrain. Et même si on arrive à trouver des réponses à certaines questions, d'autres questions commencent à se poser, on n'arrive pas à trouver de réponses. C'est pour ça que la recherche doit continuer. On espère qu'on aura plus de réponses dans les années à venir.
Les Iapod, ce sont aussi 200 pièces exceptionnelles du musée archéologique de Zagreb, exposées pour la première fois en France. Et pour plus d'informations, je vous invite à consulter le site internet musée archéo, tout attaché et sans accent, .montpellier-aglo.com. Le musée de l'Odève dans l'Hérault est bien connu pour ses grandes expositions. À voir justement jusqu'à la fin du mois, Bonnard, Renoir, Vuillard, chef-d'œuvre de la collection Arcas, est en train de battre des records. Mais le musée réserve d'autres trésors, notamment une impressionnante collection archéologique intitulée « Tous archéologues », qui sera mise en valeur tout au long de ce week-end qui se veut ludique et familial. Noisette Bec-Drelon est l'archéologue en charge de l'inventaire de cette collection. Elle nous parle de cet événement au micro d'Alain Mendez de Radio Lodève.
C'est vraiment pour les enfants et leurs parents. On va essayer de leur faire découvrir les sensations de l'archéologue, le métier de l'archéologue, qu'est-ce qu'on trouve, comment on fouille à travers des animations pédagogiques, comme par exemple les activités de fausse fouille. Donc ils vont être vraiment initiés aux méthodes de l'archéologie. Ils vont prendre les vrais outils des archéologues et ils vont chercher des structures, chercher des objets dans le sable. Ce sera donc à l'extérieur, juste devant le musée. Il y aura aussi des démonstrations de poterie. Donc les enfants pourront à la fois écouter l'archéologue qui viendra présenter la céramique et aussi la parure, donc les perles, les colliers, tout ça. Donc ils vont pouvoir un petit peu mettre la main à la pâte avec un petit peu d'argile. Et ensuite, il y aura aussi de l'art rupestre. Donc là, ce sera à l'intérieur du musée. On aura fait une espèce de grotte. Les enfants pourront rentrer dans une lumière tamisée et faire de la peinture à la manière des hommes préhistoriques de Lascaux. Samedi et dimanche, de 14h à 18h, cette animation toute la journée. Donc il y aura effectivement un conte. Yves Durand, qui est un conteur qui vient de l'Aveyron, qui a inventé une histoire autour des statues menhirs. Ces grandes statues de pierre que l'on retrouve du Rouergue au Gard, un petit peu partout dans le midi de la France. Et aussi autour de l'enfant sauvage, donc cette histoire avec Victor, l'enfant sauvage. Il a un petit peu mélangé tout ça. Il a créé ce conte, un petit peu en occitan, un petit peu en français, qui je pense reflète bien un petit peu la préhistoire et tout ce que ça peut susciter dans l'imaginaire des artistes d'aujourd'hui.
Puis l'idée c'est aussi de découvrir, de redécouvrir ces collections d'archéologie au musée pendant deux jours.
Effectivement, donc là il y aura à la fois des visites guidées en fin d'après-midi et sinon les collections seront ouvertes à la visite libre. Voilà, il y a eu quelques changements dans les vitrines depuis qu'on a fait l'inventaire. Il y a des nouveaux objets qui ont été présentés puisqu'il y a des collections qui viennent juste d'arriver. Petit à petit, les collections évoluent et donc petit à petit, on essaie de le montrer au public. Il y a aussi un dernier étage au musée de l'Odève, donc c'est un étage très intéressant et on a vraiment toute l'histoire, à la fois géologique, paléontologique, archéologique. On a vraiment une vision générale de la région et de tout ce qui peut s'y trouver, des richesses, etc. Puis ça doit donner envie de faire des balades aussi. Et c'est pour ça que donc le GAL a fait ce petit diaporama pour susciter des envies de sortir.
Donc ce sera tous archéologues ce week-end, samedi et dimanche, alors les après-midi uniquement?
Voilà, uniquement les après-midi. Le matin, vous pouvez aller voter et l'après-midi de 14h à 18h. Juste une petite précision, donc toutes ces animations archéologiques sont gratuites. Il faut venir quand même avec des habits pas très propres. Venez pas avec vos habits du dimanche parce que bon, voilà, les fausses fouilles et puis l'atelier de peinture rupestre, ça risque de salir un petit peu. Également, préciser que les parents peuvent aussi aller voir la collection Arcas, car c'est un des derniers week-ends où elle sera exposée. Et par contre, là, l'entrée est toujours payante.
Enfin, vous pouvez retrouver le programme complet de ces deux après-midi sur le site internet du musée www.museedelodeve.fr. Les élèves de seconde du lycée Henri IV de Béziers sont de véritables écrivains en herbe. En effet, depuis le début de l'année, 31 d'entre eux participent à une suite d'ateliers d'écriture mis en place par l'association Languedoc-Roussillon Livres et Lectures, menée par l'écrivain et dramaturge Pierre Astrier. 6 ateliers de 3 heures chacun doivent permettre aux élèves d'approcher l'art d'écrire en toute liberté, tout en étant bien encadrés. Le thème général de ces écrits, la région Languedoc-Roussillon, et le sous-thème, partir, revenir, quitter. Laurence Fuleda, professeur de français au lycée Henri IV de Béziers, nous explique le déroulement et les objectifs de ces ateliers d'écriture.
Bon, déjà, il y avait eu tout un travail en amont autour de la lecture. On est allé au chapitre du livre, etc. On a fait tout un travail autour des livres, assez important. On avait lu un roman contemporain, etc. Et donc, pour les séances elles-mêmes, ça a commencé par une rencontre avec l'auteur, découverte de la biographie de Pierre, échange avec lui. Et ensuite, et je crois qu'il avait raison, il a voulu de suite les lancer dans des jeux d'écriture variés, inspirés des jeux des surréalistes. Et donc, les premiers ateliers, c'était plutôt des jeux ponctuels et on revenait. Chaque heure, on travaillait sur un jeu et on revenait dessus. Travailler les cadavres exquis des surréalistes. On travaille à partir de photos. Après, ça nous a paru important de sortir aussi, comme c'était découvrir la région, d'aller dans la ville, voir des lieux précis. Et après, le travail de réécriture. Entre-temps, il y a eu tout le travail de Pierre qui recevait les textes, qui les réécrivait, les saisissait, les mettait en forme, etc. Je pense que les objectifs de départ, c'était favoriser une écriture. Je pense que c'était l'esprit de ce dispositif. C'était de favoriser l'écriture en liberté, en quelque sorte. Le plaisir d'écrire, on va dire. Voilà, je pense que c'était ça l'idée. Écrire en lien avec une région, un auteur de la région, tout ça, mais aussi favoriser le plaisir d'écrire et peut-être faire écrire aussi ceux qui écrivent pas beaucoup. Donc je pense que cet objectif-là, il a été à peu près atteint. On ne peut jamais dire que tout le monde va adhérer à ça. Ce n'est pas possible, ils sont 31. Mais quand même, je pense que les élèves se sont régalés. La preuve, c'est qu'ils ont envoyé beaucoup de textes à Pierre. Alors qu'après tout, finalement, ils n'étaient pas obligés. Dans la mesure où moi, je n'ai fait aucune évaluation sur ce travail, pour garder justement cet esprit de créativité et de liberté, je n'ai mis aucune note. Et donc, je pense que cet objectif de découvrir le plaisir de l'écriture, je pense qu'il a été vraiment réalisé. Maintenant, moi, j'avais un autre objectif, personnellement, c'était que les élèves rencontrent des artistes, échangent avec, et je crois que c'est très important qu'ils croisent dans leur parcours des gens qui vont leur parler de liberté, de créativité, d'humanité.
Pierre Astrier, lui, était l'auteur chargé de transmettre le goût et la pratique de l'écriture à ses élèves. Mais comment s'y est-il pris ? Et comment l'a-t-il vécu ?
Par rapport aux ateliers d'écriture, c'est la première fois que j'ai 31 jeunes devant moi pour essayer de leur faire accéder à ce que peut être l'écriture, à ce que peut être un texte littéraire comparé à un texte, disons, utilitaire, je dirais, un texte qui sert uniquement à communiquer. Comment les faire accéder à ce qui peut être l'art d'écrire, c'est-à-dire qu'on peut comparer à la peinture, enfin à d'autres arts. Au départ, quand on aborde un projet, on fait des plans. On dit on va faire comme ci, on va faire comme ça. Et après, on se rend compte dans la réalité que les plans, il faut évidemment les adapter. Et je pense que le plus important, c'est cette rencontre entre les élèves et moi. Au début, je recevais les textes, je les trouvais. Je me disais, bon, c'est pas bien les textes. Et puis je les relisais, je me disais, tiens, c'est pas mal, mais ça c'est maladroit, mais c'est ça qu'il y a de joli en fait. Et puis petit à petit, en lisant leurs textes, je me suis approché d'eux, disons. Voilà, les textes reflètent bien ce qu'ils sont dans le fond, et je pense que ça c'est très important. Quand on écrit un texte, d'être à l'intérieur de ce texte.
Pierre Astrier a donc guidé ses élèves de seconde dans leur premier pas au cœur de l'écriture littéraire. Et voici le résultat avec les œuvres surprenantes d'Abraham et de Coralie qui nous racontent les lieux qu'ils aiment.
Des maisons sur ma gauche, les champs et la forêt sur ma droite. Un panneau apparaît. Des maisons sur ma droite, des containers sur ma gauche. Derrière ceci, un jardin pour enfants et tout son matériel. Balançoire, banc, jeux, pas d'enfants. Ils sont à gauche maintenant les jeux et les maisons à droite. On avance, les maisons sont partout. À gauche, à droite, devant, derrière et loin au-dessus. Un passage, on tourne. Des murs, des maisons, la rue, le village, son cœur. À droite, des petites maisons avec de grands jardins. À gauche, des grandes maisons dans de plus grands jardins. Derrière, la forêt perchée sur sa colline. En face, la destination. Enfin, il faut regarder à gauche maintenant. Une grande maison orange qui m'a toujours paru très brillante. Mais les autres disent que c'est calme, très calme. Les murs sont épais. Cette maison, comme les autres, étouffe ses murmures pour écouter les oiseaux. Les oiseaux, c'est les seuls qu'on entend. Les chats, c'est ceux qu'on voit. Eux, ils nous regardent attentivement. Les adultes et les enfants sont chez eux. On ne sait rien d'eux, ils ne savent rien de nous. On repart, même direction. Un croisement, une croix, un Christ et une voiture qui passe. On tourne à droite, sur la gauche, des champs, des plaines, la vallée, des collines, en face, un panorama. Ici, il faut s'arrêter et contempler. Puis repartir. Des maisons sur la gauche, des containers sur la droite. Un panneau devant, un panneau derrière. Un paysage devant, un village derrière. Devant les rêves, les regrets derrière.
Si je pars demain, je serai furieuse et à la fois triste. Ça serait comme si un bout de moi, de ma petite vie qui partait. Ça serait des souvenirs laissés gravés dans un coin de ma tête, tout en sachant que je ne pourrais plus les revivre aux mêmes endroits. Je serais vraiment triste, je pleurerais beaucoup, j'irais faire un dernier tour pour faire un adieu à tous ces endroits magiques. Cette sensation de sable brûlant, de chaleur, de sel collé sur la peau à la sortie de l'eau, cette sensation-là me manquera. ne plus voir mon marchand de glace préféré dans l'angle de la rue piétonne, ne plus me balader sur le muret tout le long de la promenade, pieds nus, à s'en brûler les pieds, ne plus aller tous les soirs au boulodrome et à chaque fois déplacer les bancs comme ça nous convient. Tout ça, ce sont des souvenirs qui resteront en moi si jamais je devais un jour ne plus revoir Valras.
Les élèves de seconde du lycée Henri IV de Béziers clôtureront cette expérience littéraire par un voyage à la Comédie du Livre le vendredi 23 mai prochain. C'était un sujet de Gilles Geoffrey et de Monica Zerbib pour Radio Aviva. Ah, les déménagements, une étape de la vie pratiquement inévitable. Eh bien, de cette galère bien connue, le théâtre montpelliérain La Chocolaterie a décidé d'en faire une pièce. Ils déménagent, c'est donc leur dernière création maison, mais pour son auteur Céline Cara, c'est une véritable première. Radio FM Plus est donc allé à sa rencontre pour en savoir plus sur l'histoire de ce spectacle.
C'est une pièce qui parle d'un jeune couple trentenaire qui doivent déménager. Ils n'ont pas eu le choix, ils doivent déménager. Donc voilà, ils cherchent un appart, c'est compliqué parce qu'il faut montrer beaucoup de garanties, de cautions, tout ça. Et ils sont comme tous les jeunes trentenaires, on va dire, à l'heure actuelle, un petit peu en galère. Et donc ils cherchent, ils ont des difficultés à trouver. Et il y a aussi le fait que le déménagement en soi, c'est compliqué. Et donc qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette? Ce que l'un veut garder, l'autre veut le jeter, évidemment. Donc ça crée toujours des petites tensions. Et puis surtout, le problème du déménagement, c'est qu'est-ce qu'on range en premier et qu'est-ce qu'on garde pour pas avoir à ouvrir des milliers de cartons au bout de 5 ou 6 jours avant de pouvoir aménager dans l'autre appartement. Enfin bref, voilà. Un déménagement, c'est compliqué. Donc j'en ai fait une pièce. J'ai écrit cette pièce cet été, au mois d'août, parce que pour moi, personnellement, c'était la première année où je ne déménageais pas au mois d'août. J'ai déménagé 3 fois au mois d'août pendant 3 ans. Et donc cette année, je me suis retrouvée au mois d'août sans rien faire et presque ça m'a manqué. Donc j'ai dit, tiens, je vais écrire une pièce sur le déménagement. Et c'est vrai que j'ai mis tout ce qui a été pénible pendant les déménagements. Déménagement, c'est bien sur le papier, mais alors sur le plan pratique, ça devient vite insupportable.
Pour vous, c'est votre première pièce. Oui. En vous écoutant, on a l'impression que finalement, le thème est arrivé tout seul. Mais est-ce que l'écriture est arrivée comme ça aussi facilement ou non ?
L'idée était là, oui, il n'y avait pas de souci. Je voulais absolument écrire sur le déménagement. Après, je me suis lancée. J'avais déjà commencé à écrire pour La Chocolaterie, des sketchs pour Le Chocolat Chaud. Ça m'avait plu, j'ai compris un peu, on va dire, la mécanique de l'écriture. Mais après, c'est vrai que ce que je ne savais pas et qu'on m'a dit après, j'ai écrit une pièce à deux, donc à deux personnages, le couple. Et en fait, c'est beaucoup plus compliqué d'écrire pour deux que pour plusieurs personnages parce que du coup il y a beaucoup de matière à fournir, il faut pas baisser dans le rythme, il faut que chacun ait sa part du gâteau à défendre pour qu'il n'y en ait pas un qui serve la soupe à l'autre, comme on dit dans notre jargon. Ça a été assez compliqué, mais au final j'avais l'idée, je savais exactement ce que je voulais dire, j'avais mes points cruciaux sur le déménagement, donc ben voilà, on s'installe devant son papier, on écrit, puis en fait au fur et à mesure les petites idées arrivent les unes après les autres et on se retrouve au final avec une pièce qui dure ben ouais 1h10 là maintenant actuellement. Maintenant ben c'est ma première pièce, donc c'est mon petit bébé et on va voir ce que ça donne. Mais on est très confiants déjà sur les répétitions, on se fait rire. Et Il déménage, c'est un peu la pièce qui va cartonner. Donc je vais jouer cette pièce avec Kevin Bourges, avec qui je joue depuis maintenant 4 ans. Donc on se connaît très bien, on a joué ensemble sur les spectacles enfants avec Tom et Zoé. Donc on a notre complicité qui est bien installée. Et puis en plus là, pour faire le jeune couple, c'était le casting idéal sur la troupe de La Chocolaterie, j'entends. Le duo fonctionne très bien.
Enfin, est-ce que vous pouvez dire un dernier mot aux auditeurs qui hésiteraient à voir cette pièce se disant j'ai pas envie que ça soit une pièce en carton?
C'est pas mal, c'est vrai que ça peut être à double sens. Non, c'est pas une pièce en carton, c'est le carton de l'année. Et dans le carton, ça veut dire le succès. Bon, en même temps, c'est un petit peu prétentieux, mais quand j'ai écrit Il déménage, j'ai trouvé le sous-titre tout de suite. Et justement, la dérision sur le fait qu'on annonce avec prétention que c'est le carton de l'année, c'est justement la marque de La Chocolaterie. On n'est pas là pour se prendre la tête, on est là pour rigoler. Franchement, venez à La Chocolaterie, venez voir Il déménage, vous ne serez pas déçus. C'est une pièce familiale dans la tradition de La Chocolaterie. Vraiment, venez. Et puis, c'est ma première pièce, alors, hein, oh, oh, oh. C'est une pièce de La Chocolaterie, je fais partie de la troupe, on est dans l'esprit de La Chocolaterie.
Enfin, Il déménage, c'est tous les vendredis et samedis à 21h15 au théâtre de La Chocolaterie à Montpellier. C'est la fin de ce carnet de région, une émission proposée et réalisée par plusieurs radios associatives en Languedoc-Roussillon. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. De mon côté, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Mais en attendant, je vous souhaite un très bon week-end. À toutes et à tous.